AXA, premier assureur des pros.
Louis, c'est le boulanger de Sarah, qui, elle, est la fleuriste de Franck, qui, lui, est l'architecte de Julie. Ah, mais si, vous savez, Julie...
Parce que votre activité compte pour vous, mais aussi pour les autres, AXA s'engage à vous accompagner pour qu'elle ne soit pas à l'arrêt. Avec l'offre Atout Pro, si vous êtes dans l'incapacité de travailler à la suite d'un accident, AXA vous aide à trouver une personne qualifiée pour poursuivre votre activité. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2020 selon clauses et conditions du contrat.
Et surtout, bonne écoute avec AXA.
Bonjour Alexandre Sobo.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de France Industrie. Peut-on imaginer que l'industrie française se passe du gaz russe l'hiver prochain?
L'industrie française y travaille d'ailleurs. Je pense que la France et l'Europe y travaillent. Il y a différents scénarios qui sont regardés. Aujourd'hui, les constats qu'on peut faire à cette heure, c'est que c'est difficile de s'en passer complètement. Et donc si on n'avait plus du tout de gaz russe, notamment cet été, pour remplir toutes nos réserves, compte tenu du cycle d'approvisionnement et de consommation du gaz, il est vraisemblable qu'il faudrait faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire l'hiver prochain, mais on n'en est pas encore là.
Ces choses-là, ça veut dire du rationnement, parce que tout le monde a l'air de considérer que si le robinet du gaz russe était coupé, on ne priverait pas les consommateurs finaux, les clients, vous et moi, notre chaudière à gaz, nos plaques de cuisson, de gaz, ça se continuerait à être alimenté. En revanche, les industriels, sans doute, seraient rationnés, pour ne pas dire coupés, quoi.
Il y a tout un tas de plans pour mettre en musique ce manque de gaz qui sont en train d'être travaillés, retravaillés, des plans de continuation, des plans de rationnement. Encore une fois, personne ne s'était réellement projeté dans une situation de ce type jusqu'à un passé assez proche. Et donc c'est tout cet exercice, si le manque de gaz devait se confirmer dans les semaines ou les mois qui viennent, qu'il faudrait remettre à plat pour voir effectivement qui, à quel moment, avec quelles conséquences. Mais s'il manque 20% de gaz en Europe, c'est sûr que ça aura des conséquences.
Donc c'est une économie, pour le coup, une économie de guerre. C'est des prix qui vont augmenter, c'est des usines qui vont être arrêtées. Ça veut dire, voilà, on arrête certains produits, certaines fabrications.
Alors, je pense quand même que l'économie de guerre, c'est surtout pour les Ukrainiens qui sont sous les bombes ces temps-ci. Nous, on subira les conséquences de la perturbation d'un certain nombre de chaînes logistiques et d'approvisionnement d'énergie. C'est quand même pas tout à fait pareil. Mais effectivement, ça aura des conséquences. Et la plus importante, c'est sans doute une remontée de l'inflation du fait des pénuries et de la difficulté d'approvisionnement du gaz, de l'énergie, mais sans doute d'autres matières premières dont la Russie était un grand fournisseur des industriels et de l'économie européenne. C'est toutes ces conséquences qu'il faut évaluer. Et aujourd'hui, on le voit bien, le sujet, c'est de s'habituer finalement à un retour assez violent et pas prévu de l'inflation. On voit le SMIC qui va augmenter avant la fin du semestre. On voit la pression à tous les endroits dans les chaînes de relations clients-fournisseurs. On était dans un environnement où finalement on discutait des prix une fois par an avec quelques pourcents de hausse ou de baisse suivant l'environnement. Et là, on voit bien que les gens ont négocié il y a 3 mois et puis il faut s'y remettre parce qu'il y a des variations très importantes.
Quelle réflexion ça vous amène sur finalement le futur du mix énergétique français? Tout ça, ça va accélérer les mouvements en cours?
Je pense que la France avait fait des choix dans la durée qui montrent aujourd'hui leur pertinence, parce qu'on fait partie des pays européens qui sont quand même les moins affectés par cette crise, compte tenu de notre plus faible dépendance que les autres du gaz russe. Maintenant, comme tout le monde, on utilise du gaz, et donc cette crise aura des conséquences. Et il faut continuer à se poser la question de la souveraineté, de la fiabilité des approvisionnements, de la diversité des fournisseurs, puisque finalement, on retrouve derrière ça, et c'est pas vrai que pour le gaz, le sujet de d'où viennent vos matières premières, d'où viennent vos composants critiques. On avait connu les composants électroniques Taïwan qui ont fait l'actualité une bonne partie de l'année dernière, et je vous confirme que c'est toujours un petit peu compliqué. On voit avec un certain nombre de matières premières que la Russie était un fournisseur important, l'Ukraine aussi, on a parlé du néon, on voit certaines matières premières agricoles. C'est autour de toutes ces réflexions qu'il faut effectivement travailler sur la diversité des sources d'approvisionnement.
Mais est-ce que sur l'énergie, on peut électrifier à 100% l'industrie française?
On peut électrifier très largement, directement ou indirectement l'industrie française, mais pas d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent. D'ailleurs, c'est un process qui avait été engagé dans le cadre de tous les plans de décarbonation de l'économie française. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, la France, c'est le pays du monde, le grand pays industriel du monde, qui a l'euro de PIB le plus décarboné de la planète. Donc, on était déjà plutôt en avance. Les industriels ont beaucoup travaillé ces sujets ces dernières années. Et l'essentiel des plans sont prêts. Il faut être capable de les mettre en œuvre. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup d'investissements, c'est souvent des prix de revient qui vont augmenter. Vous savez, on s'est posé la question avant cette crise dans le cadre de la décarbonation. décarboné, on sait faire. Pourquoi on le fait pas? C'est pas pour polluer la planète, c'est parce que c'est sensiblement plus cher que les solutions carbonées et que le consommateur, on le voit bien avec les prix de l'énergie, on l'a vu dans différents épisodes de notre vie politique, ils sont pas spontanément prêts à payer leur leurs biens de consommation courante ou moins courante, 10, 20, 30, 40, 50% plus cher.
Alexandre Sobot, la présidentielle, c'est dans 9 jours. Vous avez un petit peu votre propre programme. Vous demandez la baisse des impôts de production. Ça semble devoir se faire si certains candidats, on va pas les citer pour éviter les problèmes de temps de parole et de temps d'antenne, sont au pouvoir après le mois d'avril. Vous poussez notamment pour les relocalisations. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est possible?
Ben, la preuve que c'est possible, c'est que l'année dernière, il y a eu 3 fois plus d'implantations industrielles que de fermetures, et c'est la première fois depuis très longtemps. Donc, quand tout le monde s'y met, quand on se pose la question de la compétitivité, de l'attractivité, des conséquences, des compétences, pardon, du bon niveau de soutien à l'économie, on arrive à faire des choses.
Et sur les compétences, ce ne sera pas les mêmes emplois qu'on a délocalisés, ceux qu'on va relocaliser. Non, ce ne seront pas les mêmes.
Mais ce seront plutôt, entre guillemets, de meilleurs emplois. Mieux payés, plus qualifiés, sans doute un peu plus acceptable ou en tout cas agréable. Donc tout cet environnement va dans le bon sens, mais il faut aussi former les gens à ces nouveaux métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont apparaître, il faut accompagner ces transitions. Ça demande là aussi un gros effort, et ça doit s'inscrire dans le temps avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'identification des nouveaux métiers autour de la data, autour de la décarbonation, autour de la maintenance de lignes automatisées. Il y a beaucoup de choses qu'on voit apparaître dans des volumes plus importants qu'avant. C'est tout ce travail qu'on essaye de faire pour être prêt.
Et vous poussez aussi pour la sanctuarisation du crédit impôt recherche qui vous semble menacé?
Écoutez, je ne sais pas s'il est menacé, mais l'observation ces 15 dernières années, c'est que tous les ans, au Parlement, en loi de finances, il y a un débat pour savoir s'il est bien calibré, à qui il profite, est-ce qu'il produit ses effets, combien il coûte. Alors en même temps, c'est plusieurs milliards d'euros, donc c'est normal que les gens se posent la question. Mais pour l'attractivité du pays, essayer de ne pas en faire un sujet de remise en cause trop régulière, on pense que ce serait une très bonne chose.
Merci beaucoup Alexandre Sobot, président de France Industrie, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est 6h20.